Bonjour. Aujourd'hui, je fais une vidéo politique et j'ai décidé d'aborder la question de la Palestine. Si j'ai décidé de toucher à ce sujet, c'est parce que c'est un sujet essentiel dans la politique mondiale pour comprendre tout le conflit qui se passe au Moyen-Orient. C'est vraiment le nœud central. Donc, peut-être si je réussis à éclairer une question ou deux, ce sera tant mieux. Il y a deux mythes que j'aimerais déboulonner à propos du conflit israélo-palestinien. Premier mythe, c'est l'idée que ce conflit existe depuis toujours et que c'est un conflit éternel. Deuxième mythe, c'est que le conflit prend sa source à la fondation de l'État d'Israël en 1948. Donc, pour ce qui est du premier mythe, l'idée que c'est un conflit éternel, c'est un mythe très embarrassant parce que à partir du moment où on déclare que quelque chose est éternel, c'est donc qu'on ne peut pas le résoudre et on laisse aller les choses sans jamais s'impliquer. Donc, c'est une position très confortable. Cette conception est ancrée dans les vues religieuses qui entourent la Palestine. La Palestine est pour le judaïsme la terre promise. Pour le christianisme, c'est une terre sainte et pour l'islam également. Donc, on est pris avec ça. Pour ce qui est de la terre promise, c'est textuellement. Si vous allez dans la Bible, c'est le chapitre 15 de la Genèse. Donc, il est écrit: En ce jour, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes: C'est à ta descendance que je donne ce pays, du fleuve d'Égypte au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Donc, si vous allez voir une carte géographique ou que vous allez sur Google Maps, il y a le Nil, il y a l'Euphrate, et le territoire entre les deux va au-delà de l'État d'Israël. Donc, on inclut presque la moitié de l'Égypte, une partie importante de l'Irak, la Syrie au complet ou à peu près. Donc, c'est un territoire immense qui est désigné dans le texte comme la terre promise. Maintenant, si les chrétiens considèrent que c'est une terre sainte, c'est parce que c'est le lieu de naissance et de vie de Jésus, qui est considéré comme le Fils de Dieu. Et pour l'islam, c'est un territoire essentiel de ce qui a été les deux grands califats, et c'est le lieu des grands prophètes, y compris Moïse, David, Samuel, qui sont tous des prophètes que l'islam reconnaît. Donc, on est prêt avec ça. Mais, ceci dit, il n'y avait pas de conflit politique pour gagner le territoire. Au moment où la promesse est faite, parce que une grande partie des Juifs vont considérer, ils le considèrent à l'époque, à cette époque-ci, il y en a qui encore le considèrent, c'est que la terre sainte, la terre promise, va être donnée par Dieu. Donc, il n'est pas question de mener une guerre pour aller la conquérir. Avec l'islam, il va y avoir une réelle conquête et avec le christianisme, il va y avoir les croisades. Donc, premier conflit autour de cette terre, mais c'est des conflits vraiment pour la ville de Jérusalem. Donc, il n'est pas question dans les croisades de faire un État chrétien de la totalité de la Palestine. Et pour le califat, la Palestine n'est pas non plus un lieu qui doit être coupé du reste. Donc, ça fait partie de l'ensemble. Après les deux califats, il va y avoir l'Empire ottoman qui va occuper l'autorité politique sur la plus grande période. Donc là, on est du milieu du Moyen Âge jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors, d'où vient l'idée qu'il faudrait un État d'Israël qui soit proprement juif et d'où vient l'idée qu'il faille le conquérir maintenant, donc sans attendre la promesse de la terre promise de Dieu? Eh bien, il y a un théoricien, Théodore Herzl, qui va écrire un livre en 1896 qui s'appelle L'État juif. Il y a quelque chose d'un peu fascinant quand on lit la préface du livre, c'est qu'il ne considère pas amener quelque chose de neuf et il ne considère pas qu'il a un savoir nouveau, qu'il a fait une découverte théorique nouvelle. Et pourtant, son manifeste va avoir des incidences énorme. Il va appeler les Juifs à fonder des sociétés pour faire la promotion d'un État juif sur le territoire palestinien. Donc en 1896, il sort son livre L'État juif. 1897, il va fonder l'organisation sioniste. Il va être à la tête de cette organisation un temps, puis après il y a d'autres gens qui vont prendre le relais. Et cette organisation va être une des organisations qui vont faire la promotion de cet État. Donc, si on a à mettre le doigt sur le début du conflit de l'occupation actuelle, c'est à la toute fin du 19e siècle, cette idée que les Juifs doivent avoir leur État qui correspond au mythe religieux qu'on rencontre dans la Bible. Ceci dit, la propagande, les livres, les organisations n'auront pas beaucoup de succès immédiatement. Ça va prendre quelques décennies. Et c'est la Première Guerre mondiale et non seulement la deuxième, mais c'est la première qui va commencer tous les problèmes dans cette région-là, parce qu'on va, à la suite de la Première Guerre mondiale, démanteler l'Empire ottoman, qui avait quand même une certaine stabilité depuis longtemps. Donc, on va le démanteler, et en le démantelant, l'Angleterre occupe la Palestine et reconnaît le droit des Juifs d'avoir leur État. Donc, ça commence comme ça. Et là, évidemment, avec la montée du fascisme, du nazisme en Europe dans les années 30, il va y avoir toute une immigration juive qui va gonfler les rangs de cet État naissant. Et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, devant l'horreur qui a été commise, là, il y a une décision qui est prise de l'ONU et il va y avoir deux États, donc un État palestinien, arabe, et un État israélien, juif. Et cette résolution de l'ONU vient directement du désengagement britannique qui sait très bien qu'il y a des tensions là-bas, qui sait très bien qu'il y a une guerre civile qui se prépare et qui veut juste pas avoir affaire à ça. Donc l'impérialisme britannique, on sous-estime son importance dans ce conflit-là, mais à ce moment-là, lève les pattes. Fondation de l'État, guerre, il va y avoir évidemment l'ensemble des États arabes autour, la Ligue arabe, qui va lutter contre l'État d'Israël et on est en pleine guerre froide. Alors le bloc de l'Est avec les communistes va appuyer le mouvement de libération palestinien, alors que le bloc de l'Ouest avec les États-Unis, l'Europe de l'Ouest et l'ensemble des capitalistes vont aider et appuyer Israël. Et ça, c'est pas un hasard. Parce que quand on regarde ce conflit-là, je pense qu'il faut le regarder aussi avec cette lunette-là, c'est-à-dire d'un mouvement de libération anticoloniale contre un mouvement de répression impérialiste. Alors là, on a une autre des clés du conflit. Dans les années 60, les succès d'Israël vont être tels qu'ils vont envahir une partie de l'Égypte, une partie de la Syrie. C'est des territoires qui vont finir par perdre à nouveau, mais il y a une ampleur qui se gagne et les frontières de 48 n'ont plus rien à voir. Le mouvement palestinien est dirigé dans les années 60, par une organisation qui s'appelle l'OLP, donc l'Organisation de libération palestinienne. On connaît la figure de Yasser Arafat, qui a fait partie de ce mouvement. C'est un mouvement anticolonial, c'est un mouvement de gauche, socialiste, et qui lutte de 48 à... Il existe encore. Mais ces bonnes années sont surtout les années 60, 70. En 87, il va y avoir ce qu'on appelle la première intifada. Donc, intifada, c'est la guerre des pierres. Donc, on lance des cailloux contre des tanks. C'est l'arrivée des frondes. Donc, on tourne et on lance. Et avec cette première intifada va arriver un nouveau mouvement. C'est le Hamas. Et le Hamas, lui, est plutôt un mouvement de droite. Il est anti-sioniste également, mais il est religieux, donc islamiste. Et là, c'est une autre des clés du conflit. On comprend, à mon avis, assez mal la montée du religieux dans les pays arabes. Et j'ai une hypothèse. Cette hypothèse, c'est la mienne. Elle n'engage que moi. Vous serez d'accord ou pas. C'est que si ces groupes religieux ont eu beaucoup de succès dans les pays arabes, c'est parce que les mouvements de gauche, comme l'OLP, mais comme d'autres, ont commencé à jouer le jeu des négociations. Ils se sont assis à l'ONU. Ils ont pris comme interlocuteur l'impérialiste et ils ont essayé de trouver des solutions concrètes au conflit. Le problème, c'est que ces modes d'action qui quittent la lutte, disons, de guérilla pour entrer dans le parlementarisme et la négociation, c'est vu souvent, et à mon sens avec raison, comme une trahison. La négociation avec l'ennemi en temps de guerre civile, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Je ne dis pas que ça doit jamais avoir lieu, mais le moindrement qu'on se désarme soi-même pour plier l'échine, on perd de la crédibilité auprès de ceux qui subissent l'oppression. Et ça, c'est essentiel. Et je crois que ça explique, en gros, la montée dans les années 80, 90, 2000, de tous ces mouvements religieux qui, eux, vont ancrer leur lutte dans un discours anti-croisade, donc revenir à l'époque où on a combattu les croisés. hein, lorsqu'on lit les textes, par exemple, de Ben Laden, c'est quelqu'un qui est très anti-croisade et va parler des croisades de Bush. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi qui suis présentement au Québec, je me trouve très mal situé pour dire aux Palestiniens comment faire, quoi faire, qui appuyer, comment lutter. Ce serait de l'arrogance pure. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ont pris position sur cette question-là. Certains ont des points de vue intéressants. D'autres ont carrément des propositions louches. Souvent, malheureusement, c'est juste une façon de se mettre en évidence, se mettre de l'avant, se faire sa propre publicité. Et dans les organismes qui existent, donc en Occident, et qui peuvent intervenir de façon concrète et réelle, j'ai fait des marches, il y en a eu beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements sociaux-démocrates, Amitié, Québec-Palestine, des trucs comme ça. Et ils m'ont semblé un peu tomber dans le piège de l'OLP, de la discussion, de la négociation. Et avec le temps, je me suis rendu compte que le seul mouvement réellement intéressant sur cette question-là, c'est une campagne politique qui traverse à peu près tout l'Occident et qui s'appelle BDS, donc boycott, désinvestissement, sanctions. Il s'agit de mener une lutte économique. Donc la lutte économique contre l'impérialisme et l'occupation coloniale israélienne. En tout cas, ça, c'est là où je mets mes pieds sur la question. Libre à vous de mettre les vôtres ailleurs. Bonne journée.